10h41, on continue de défiler la brochette d'invités dans le Point de Max aujourd'hui pour bien finir la semaine. Et d'ailleurs, lui, ben, on l'a reçu toute la semaine à 10h40 et ça va se poursuivre, cette belle collaboration, la semaine prochaine. À tous les jours, l'ami Georges Mercier qui est au bout du fil. Salut Georges.
Salut Max, grand bonjour de Montréal.
On n'a pas manqué de stock dans l'actualité politique en fin de semaine avec des annonces, des déclarations, un paquet d'affaires. Puis là, aujourd'hui, je regarde ce qu'on a à passer sur notre liste, puis on a du matériel aussi pour une bonne discussion. Puis je veux commencer avec ça parce que c'est la nouvelle qui m'a le plus accroché hier, le ministre québécois des Relations internationales, Christopher Skeet, qui parle aux journalistes après la fameuse rencontre d'urgence là, de Christine Fréchette par rapport aux tarifs qui pourraient s'en venir au nouveau tarif des États-Unis la semaine prochaine. Puis M. Skeet qui dit que le Québec pourrait se considérer non lié à une entente Canada-États-Unis si le deal n'est pas bon pour nous. En gros, dire... Si le Mark Carney arrive avec un deal avec Donald Trump et qu'au Québec, on considère que ce deal-là n'est pas bon pour nous, ben on le respecterait pas. Ça sort d'où, ça? On a-tu vraiment la légitimité de faire ça? Je veux dire, Donald Trump, de l'autre bord, là, lui, il va-tu s'en foutre là, puis faire la différence? Je veux dire, faire la différence. OK, ouais, le Québec, telle province décide que non, puis là, l'Alberta, mettons, décide de faire la même affaire. Non, tout le monde est dans le Canada, jusqu'à preuve du contraire, là.
Ouais, écoute, c'est une bonne question, Max. On a au Québec depuis plusieurs décennies là, ce qu'on appelle la doctrine Paul Gérin-Lajoie. Bon, en relations internationales, le Québec a vocation de s'affirmer de manière un peu plus souveraine. Donc, on n'agit pas sur la scène mondiale, y compris dans les accords commerciaux, comme étant seulement une province du Canada. La CAQ, cet été, a adopté une nouvelle politique de relations internationales qui veut bonifier la doctrine Gérin-Lajoie, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le truc de ne pas se sentir lié de M. Skeet. Mais ici, la grosse question, c'est que c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Puis la CAQ, c'est pas le gouvernement qui nous a le plus habitués à être très, très musclés par rapport à Ottawa lorsqu'il est question des compétences du Québec. Je pense que ce qu'il y a en tête ici, c'est de dire, par exemple, si Ottawa signe un accord commercial avec les États-Unis, et que dans cet accord-là, on demande, par exemple, d'assouplir la gestion de l'offre, ce qui pourrait impliquer des changements réglementaires au Québec, que nous-mêmes, on modifie nos lois pour rendre l'accord possible, alors là, le Québec pourrait décider de ne pas modifier ses lois, et donc, dans les faits, l'accord ne fonctionnerait pas de notre bord. Donc, essentiellement, si le fédéral fait des promesses aux Américains qui engagent nos propres champs de compétences provinciales, alors on pourrait utiliser la souveraineté qui nous appartient, notre pouvoir ici, pour freiner un peu l'accord, puis pour ne pas remplir, disons, la part que nous aurait forcé de remplir Ottawa. Donc, ce serait possible, ce serait légalement concevable, mais ça va être une question de courage politique. Puis, est-ce qu'un gouvernement, à part le Parti québécois, j'ai bien de la misère à avoir un gouvernement québécois qui, dans le cadre d'un accord qui, au final, concernant la popularité de Mark Carney, risque de plutôt bien passer dans la population, là, va vouloir engager un bras de fer juridique avec Ottawa à ce sujet-là.
Mais non, puis, tu sais, dans le contexte actuel, là, puis on pourra reparler un petit peu plus tard de la relation entre Mark Carney et Christine Fréchette, mais dans le contexte d'élections provinciales qui s'en viennent, Christine Fréchette donnerait des munitions au Parti québécois en plantant une entente. Là, peu importe c'est quoi le deal qui finit par être signé par Mark Carney, j'ai comme l'impression que les caquistes vont devoir se retenir. Sinon, ben tu donnes la victoire, puis même probablement la majorité au PQ.
Ben écoute, je suis pas sûr de ça, Max, parce que la CAQ a quand même un argument de fond. T'sais, supposons qu'Ottawa passe une entente qui est défavorable aux intérêts des Québécois, disons pour protéger l'industrie automobile en Ontario ou pour faciliter l'industrie du bois d'œuvre en Colombie-Britannique. Bon, donc on met le Québec devant le fait accompli. Effectivement, le Christine Fréchette paraît très mal parce qu'elle a dit qu'on a nommé une émissaire aux négociations, on dit qu'on est impliqué, on dit qu'on collabore avec le fédéral. Donc on aurait l'air, le gouvernement Fréchette aurait l'air de ne pas avoir été écouté, donc faible. D'un autre côté, si tout de suite après, là on se rapproche en maudit des élections, là, si tout de suite après la CAQ disait « Vous savez quoi? Nous ne nous disons pas liés, nous allons résister. » Ben, ça montre qu'on est capable, si ça fonctionne, de résister à Ottawa sans pour autant avoir à prendre le risque du PQ. Donc, je ne sais pas comment paraîtrait la CAQ dans ce contexte-là, mais cela dit, pour les négociations au sein du Canada, un gouvernement caquiste plus autonomiste qui ne prône pas la séparation est quand même un partenaire de négociation plus intéressant pour Ottawa que le Parti québécois. Parce que le Parti québécois, il y a toujours l'option nucléaire de la séparation, en quelque sorte, donc c'est moins facile de négocier avec lui, puis on veut surtout moins lui donner de choses.
Ça peut nous mener à parler de Churchill Falls, cette entente, le Radio-Canada qui a obtenu des détails, le deal qui devrait être annoncé lundi entre le gouvernement du Québec et celui de Terre-Neuve. Là, ce qu'on sait, puis je vois très grossièrement, parce qu'évidemment, c'est très, très, très complexe là, comme dossier, mais en gros, Terre-Neuve aurait obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire plus de production d'énergie, mais le Québec, lui, n'aurait pas réussi en contrepartie à aller chercher de meilleurs tarifs. Puis ce qu'on pensait à la base, c'est que si Terre-Neuve gagnait plus d'énergie, ben ça allait venir avec un meilleur deal pour le Québec au niveau des tarifs. Là, mettons, de ce qu'on a à date comme info, là, grossièrement, trouves-tu que le Québec s'en sort bien ou pas vraiment?
Si je comprends bien ce que nous apprend Radio-Canada, c'est qu'essentiellement, on avait un gâteau initial, disons, qui valait 10 unités, puis là, Terre-Neuve n'était pas contente de sa répartition des 10 unités. Donc, on va avoir un plus gros gâteau. Terre-Neuve va avoir plus d'énergie, mais le Québec aussi aurait plus d'énergie. Oui. Puis on parle d'une proportion assez significative, là, ce qui serait comme 30 % je pense, une augmentation de 27 % de notre capacité de production totale. Ce qui est significatif, dans ce contexte-là, considérant qu'on veut sévèrement augmenter notre production d'énergie propre d'ici 2050, il y a une petite victoire pour le Québec, mais la question d'abord, c'est à quel coût? Puis ensuite, il y a aussi la question du timing qui est intéressante, parce que si on prend au sérieux l'hypothèse voulant que du côté d'Ottawa et de Terre-Neuve, on voulait rusher l'entente parce qu'on avait peur des demandes plus importantes qu'aurait fait un gouvernement du Parti québécois, mais ça nous laisse quand même entendre qu'on aurait peut-être pu aller chercher davantage. Donc, non pas seulement plus d'énergie, mais peut-être aussi des meilleurs tarifs pour l'énergie produite. On ne le saura probablement jamais, parce que là, ça s'enligne pour être signé, l'entente. On ne sait pas si un gouvernement du Parti québécois aurait mieux fait. Mais dans tous les cas, le problème de cette entente, c'est qu'elle va être minée par le moment auquel elle est arrivée. Christine Fréchette, ça, je veux le dire, là, a le droit de faire ça. Elle a été élue, elle a un mandat. Ça va, légalement, c'est correct. Après, est-ce qu'on aurait dû attendre après l'élection? Ça aurait peut-être été plus moral, parce qu'on se serait épargné toutes les questions qu'on est forcé de se poser en ce moment.
Et là, puis c'est drôle parce qu'il y a un petit peu de la suite dans tous nos sujets aujourd'hui, là, parce qu'on parle...
C'est un bon maître d'orchestre.
Ben, j'essaie, je fais des petits liens, là. Mark Carney, qui voulait que cette entente-là soit conclue entre Québec et Terre-Neuve. Puis je lisais la chronique de Mario Dumont dans le journal ce matin, puis il pose une question que j'ai trouvée bien intéressante. Pour moi, la réponse est claire, puis pas juste depuis quelques jours, là, depuis des mois, à partir de la conférence de presse qu'on avait faite du côté de Longueuil, si ma mémoire est bonne, et on avait fait pleuvoir des milliards sur le Québec. Moi, depuis ce temps-là, j'ai bien vu que Mark Carney avait choisi son cheval de bataille en vue des prochaines élections, puis elle s'appelait Christine Fréchette. Mais la question de Mario Dumont. Mark Carney aurait-il largué le Parti libéral du Québec pour miser sur Christine Fréchette comme adversaire pour stopper le PQ? Penses-tu que le fédéral est vraiment en train de mousser la candidature de la CAQ en se disant « Ouais, ça nous tente pas de dealer avec un Parti québécois? »
Soit bien honnête. Là, ça, c'est le genre de discours qu'on entend du côté du Parti québécois, comme quoi le fédéral s'intéresserait beaucoup à l'élection québécoise, puis qu'on a peur de la montée du PQ, puis qu'on veut saper, disons, avant qu'elle arrive au pouvoir, la menace sécessionniste ou référendaire. Je ne sais pas, sincèrement, si dans les calculs politiciens de Mark Carney, c'est une préoccupation principale pour l'élection qui s'en vient au Québec. Je pense que l'élection, le référendum en Alberta est peut-être plus important à ses yeux que ce qui se passe chez nous. Maintenant, Mark Carney est un homme intelligent, les stratèges libéraux sont des gens intelligents. Ce serait pas con de miser sur Fréchette davantage que sur Charles Milliard, parce que Milliard a eu sa chance. Ça fait quelques mois qu'il est là désormais. Ça ne lève pas son affaire, ça ne fonctionne pas, puis il y aura toujours le problème pour Milliard de son bastion anglophone, puis du fait qu'il est toujours assis entre deux chaises. Christine Fréchette pourrait être une candidature plus intéressante pour Mark Carney, d'autant plus qu'ils ont un profil un peu similaire tous les deux, là. On a deux personnes qui veulent soit atteindre le pouvoir, soit conserver le pouvoir en misant sur une crise. On a deux personnes qui jouent un peu la carte de la technocratie. Bon, la grosse différence, c'est quand même que Mark Carney nous propose des choses, puis un grand projet pour le Canada, alors que Christine Fréchette, je ne sais pas si elle a un grand projet pour le Québec, mais il y a certainement des affinités entre les deux politiciens, et ce serait stratégiquement valable de la part des libéraux fédéraux de miser sur Fréchette davantage que sur Milliard.
chez le Parti libéral du Québec pendant ce temps-là, pendant qu'on parle d'idées du côté du Parti conservateur du Québec hier avec la grosse première promesse. Du côté du Parti québécois, ben on arrive aussi avec des idées, des engagements en vue de la prochaine campagne. Chez la CAQ, on n'arrête pas les annonces. Chez le Parti libéral, on a toute la misère du monde à faire parler de nous pour les bonnes raisons. Là, dans les dernières heures, Charles Milliard était poigné pour répondre à des questions, encore une fois, sur Farnell Morisset, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il a tenu des propos un peu controversés. Puis là, il y a des experts qui sont sortis en disant « il n'y a pas raison, ça n'a pas de bon sens. Non, la loi 101 ne permet pas aux fonctionnaires d'aller fouiller sans raison dans vos ordinateurs. » Alors que c'est un peu ce que Farnell Morisset disait dans sa vidéo. Puis là, on commence à se demander « ouais, Farnell Morisset, finalement, là, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça pour les libéraux, même si c'est une candidature de grande qualité. »
Moi, je ne sais pas si c'est une candidature de grande qualité, un info-influenceur qui faisait souvent de la propagande libérale, sans le dire. Mais une chose est certaine, moi, je le connais pas, Farnell Morisset, mais ça m'a l'air d'être un gars qui a un gros ego. Je pense qu'il va avoir de la misère avec la ligne de parti. Puis si on veut monter une campagne électorale qui a de l'allure, faut qu'on soit capable de proposer un message unifié, puis avoir un de nos candidats commence à dire des conneries, parce qu'ils sont vraiment des conneries, en l'occurrence, là, sur la loi 101, alors que le Parti libéral devrait savoir que s'il y a bien un enjeu pour eux, c'est trouver une manière de convaincre les francophones qu'ils ont leurs intérêts à cœur et qu'ils vont défendre le français, nonobstant leur bastion anglophone. Mais je comprends pas comment on a pu penser dans la tête de Farnell Morisset que c'était une bonne chose de faire ces déclarations-là. Ça m'apparaît complètement absurde, Max. Là vraiment, je vois pas pourquoi il est allé dire des choses comme ça. Puis encore une fois, ça rajoute de l'eau au moulin à tous ceux qui pensent, partiellement en raison, selon moi, là, que le Parti libéral du Québec, le Parti libéral du Québec d'aujourd'hui, là, on parle pas de Robert Bourassa, à l'arrière, on parle même pas de Jean Charest, mais le Parti libéral du Québec, tel qu'il s'est reconstruit dans les dernières années, est un parti qui, structurellement, n'est pas capable de se rendre crédible pour la défense de la nation québécoise, peu importe s'ils disent nationaliste, et c'est encore un autre épisode qui prouve que parmi leurs candidats, vous avez des gens qui sont prêts à faire des déclarations comme ça, qui ne font que miner le parti. D'ailleurs, j'ajouterais même, Max, même s'il avait raison, Farnell Morisset, sur le pouvoir potentiel de la nouvelle loi sur le français pour les fonctionnaires d'aller fouiller dans les téléphones, il ne devrait pas le dire. C'est vraiment pas un enjeu électoralement payant. C'est vraiment pas une sortie électoralement payante. Ça montre surtout beaucoup d'immaturité politique de la part d'un Farnell Morisset qui devrait comprendre qu'il n'est plus dans le domaine de l'information, entre gros guillemets, mais qu'il est rendu dans une joute politique. Il y a des messages à tenir, puis il y a des choses qu'on ne peut simplement pas dire si on veut avoir une chance d'être élu.
Georges Mercier, es-tu prêt à ce qu'on termine notre semaine ensemble sur un terrain très glissant?
Ah ben toujours, toujours, Max.
T'es un gars de Montréal?
Ouais, on a des ponts chez nous. Il vous en manque à Québec, hein?
Ben, nous, on pense que oui, puis là, c'est pour ça que je dis, parce que des fois, ça nous gosse d'entendre le monde de Montréal nous dire ce qu'on devrait penser par rapport à nos enjeux ici à Québec. On va essayer, Georges, de se parler de troisième lien. Éric Duhaime, qui limiterait le projet de troisième lien Québec-Lévis à une seule voie par direction en raison de l'état actuel des finances publiques au Québec, ferait passer ça sur du côté de l'île d'Orléans. Puis ce qu'il dit, c'est « ouais, ben là, on n'a pas le choix de se fier au fait que en ce moment, on bâtit un pont Québec-Île d'Orléans, qui est un, entre guillemets, c'est un petit pont, je veux dire, c'est fait juste pour Québec-Île d'Orléans. » Fait que dans ce contexte-là, ben notre troisième lien, ça a comme pas le choix d'être un pont Lévis, Île d'Orléans aussi, d'à peu près un pont qui va être très semblable à celui de l'autre bord. C'est une bonne idée, ça, de faire plus petit, de faire moins cher pour un projet comme le troisième lien?
Ben, c'est une bonne question. Moi, d'abord, je vais te dire, contrairement aux Montréalais typiques qui habitent dans le centre de Montréal, là, je suis pas contre le troisième lien. Il y a un moment où vous avez deux ponts. Québec est la capitale nationale du Québec. C'est la capitale francophone des Amériques. Il y a un moment où ça me semble tout à fait concevable là, que les deux rives de Saint-Laurent soient mieux connectées qu'elles le sont. D'autant plus que vos ponts actuels sont vieillissants. Puis, éventuellement, ce nouveau troisième lien-là, très rapidement, deviendrait un deuxième lien. Donc, par rapport à ça, j'ai juste envie de dire, faisons-le puis passons à autre chose, là. C'est un débat complètement irrationnel parce qu'on est campé sur nos positions respectives. Maintenant, sur la sortie du Duhaime, il y a deux affaires ici. D'un côté, ce qui est intéressant, c'est que le Parti conservateur veut proposer une approche responsable. C'est tout à fait dans le sillage du message qu'on veut amener chez les conservateurs. C'est un gouvernement plus responsable, plus économe, qui se soucie de l'argent des contribuables. Donc, dans ce contexte-là, qu'ils disent, vous savez quoi, on a déjà un pont à deux voies, de l'autre côté, on va en construire un à deux voies, ça va être plus raisonnable, ça va coûter moins cher. Je peux comprendre pourquoi ils le font. Cela étant dit, ça fait des années et des années que vous en discutez, qu'on est obligé de vous entendre en discuter du troisième lien. Tant qu'à le faire, autant le faire en grand. Autant le faire en grand pour là vraiment tenter de régler la question à plus long terme. Et est-ce que, dans tous les cas, ça va coûter des milliards? OK, ça va coûter des milliards. Autant le faire, à mon sens, là, le plus large possible, avec, comme on a fait pour le pont Champlain à Montréal, éventuellement une voie réservée au milieu si on veut avoir un train ou quelque chose du genre pour le transport en commun. Si on est pour faire une première pelletée de terre, mon idée à moi, en fait, mon intuition, ce serait de le faire pour de vrai et peut-être pas d'être si sensible aux considérations de fiscales, seulement de saine gestion de l'État que Duhem semble vouloir l'être.
Georges, on va finir ensemble. On a fait des liens là tout au long de ta chronique. Fait que je vais finir avec un lien vers notre prochaine entrevue. Ben ma prochaine entrevue. Toi, tu seras plus là. Tu peux bien écouter si ça te tente. Ça va me faire plaisir de savoir que tu es à l'écoute. Est-ce que c'est le moment idéal pour tenir un référendum sur la souveraineté?
Deux considérations là-dessus. La question du référendum du Québec, là, la souveraineté du Québec, va se jouer au sein des francophones sur le territoire québécois. Les anglophones votent non. Donc, en 95, je pense qu'ils ont voté non à 95%. On les convaincra pas. Les anglophones du Québec se considèrent comme des Canadiens avant de se considérer comme des Québécois. C'est pas une question pour eux. Donc, si on veut gagner un référendum, Max, nos meilleures chances procèdent de la quantité de francophones sur le territoire québécois. Cette quantité-là, elle diminue. Donc, si un jour on veut en gagner un référendum, je dis on, là, pas que je sois indépendantiste, mais si on veut qu'il y ait un référendum gagnant, il faut qu'il y ait le plus de francophones possible, alors qu'il diminue, le moment est critique. Donc, il va falloir le faire, j'ai envie de dire, au plus sacrant, pendant que nos chances sont les meilleures de l'emporter. Parce que si la proportion passe à 70-65% de francophones, c'est impensable de gagner un référendum pour la souveraineté du Québec. Donc, oui, ce serait bien de le faire maintenant. Est-ce que la conjecture politique s'y prête? Est-ce que la conjecture économique s'y prête? Est-ce que les Québécois en ont envie? Malheureusement, ce que tous les sondages nous disent, c'est que non, les Québécois n'ont pas envie de tenir un référendum et les chances sont qu'ils seraient perdants. Donc, il y a un enjeu stratégique. S'il y a à la fois une urgence d'agir, au même moment, des conditions qui ne sont pas rassemblées, je ne veux pas parler des conditions gagnantes. Cela étant dit, peut-être qu'on pourrait avoir un miracle qui pourrait augmenter le sentiment national. Moi, j'espère vraiment, si j'étais indépendantiste, j'espérais fortement que la Cour suprême du Canada invalide la loi 21. On verra si elle fera ou non, mais il va falloir un élément qui débloque, qui sort les Québécois de la torpeur dans laquelle ils se tiennent.
Georges, merci beaucoup. On se reparle lundi.
Allez, mon ami.
Salut. Au retour, Denis Monnière, politologue, qui signe dans le Journal de Québec une lettre ouverte titrée « C'est le meilleur moment de tenir un référendum ». Vous écoutez le Point de Max? Vos réactions au 88 971 1021 par texto.
Le Point de Max.